bienvenue si vous nous rejoignez sur RTM 33. Emmanuel avec vous dans Mille et une vies et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Lassalle-Saint-Jean.
Bonjour. Bonjour.
Alors Philippe, merci d'être mon invité déjà pour commencer. Et je vais vous présenter, j'ai envie de dire brièvement, mais ça va être compliqué parce que vous avez des titres dans tous les sens, j'ai envie de dire. Donc on est parti pour un petit marathon. Vous êtes chef d'entreprise par rapport au sirop Menot, qui a son siège d'ailleurs social à Darwin, c'est ça ?
Tout à fait.
On peut préciser aussi que... par rapport à Darwin, vous êtes engagé avec Philippe Barre, on en reparlera par la suite. Vous avez de nombreux titres, donc je le disais. Vous avez pris une fonction au sein de la Chambre de commerce. Vous êtes président de la commission de Bordeaux RSE. Vous avez d'autres titres, je tourne la feuille. Président du syndicat national et vous avez été président par rapport au bio pendant 11 ans, c'est cela ?
Tout à fait, sur l'interprofession bio en Nouvelle-Aquitaine.
D'accord. Donc, une vie, ma foi, très active, avec des journées qui doivent commencer très très tôt et qui doivent se terminer quand même assez tard. On gère ça comment ?
Bon, d'abord, déjà, j'ai la chance de ne pas dormir beaucoup. Voilà. J'ai un papa sûrement qui m'a réveillé par habitude très tôt le matin en me disant que ceux qui se levaient tôt réussissaient leur vie. Je suis toujours en mouvement. Il faut être organisé ou en tout cas avoir des gens qui vous rappellent votre agenda. Et puis, j'ai peut-être un défaut, c'est que je pense que je travaille 7 jours sur 7, même quand je ne suis pas au boulot, je pense toujours. Voilà, c'est le cas de nombreux entrepreneurs. Voilà, mais on est toujours effectivement, et puis avec les outils numériques, je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué de se détacher.
Mmh. Oui, connecté en permanence, ouais. Les mails, les SMS, tout arrive et c'est pas facile de ne pas répondre.
Oui, voilà, on dit souvent qu'il faut savoir s'organiser et essayer de ne pas être atteint par la dernière nouvelle qui arrive. Mmh. Moi j'ai fait plusieurs fois les formations pour essayer d'avoir... un temps pour soi et un temps pour le travail. Bon, là-dessus, je peux encore continuer à me former.
Mmh. C'est bien, comme ça vous avez un indice de progression.
Oui. Voilà.
Bon, alors vous venez d'une famille d'entrepreneurs, vous parliez de votre papa. Votre père avant vous avait racheté l'entreprise qui s'appelait Marie Bouchard, c'est cela ?
Oui, en fait, la maison Menot a débuté son existence dès 1879 au port de Bordeaux. C'est Monsieur Laporte qui a créé une distillerie et donc il faisait des liqueurs, des guignolés. Il mélangeait le sucre de canne, les plantes et les fruits d'Aquitaine. Et puis Maurice Menot, en 1923, a donné le nom à l'entreprise et a créé la marque du nom de jeune fille de son épouse en l'appelant Marie Bouchard. Voilà. Donc ça a été les sirops Marie Bouchard, les liqueurs Marie Bouchard. Et puis, notre papa, parce que c'est une entreprise familiale que je dirige avec mon frère aujourd'hui depuis 39 ans, notre papa, effectivement, avant nous, a fait le même métier que nous. Et nous avons 3 de nos 6 enfants qui nous ont rejoints dernièrement. Donc, voilà, l'entreprise, elle est dans la famille depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle a été déplacée sur la production à Saint-Loubès, mais son siège social, effectivement, est toujours à Bordeaux, et il est à Darwin depuis la création en 1992 de l'espace Darwin.
D'accord.
En 2012.
Alors, est-ce que, au niveau des formations, votre frère et vous-même, vous aviez plutôt suivi des études commerciales dirigées vers un métier un peu... dans celui d'aujourd'hui ?
Non, on a grandi dans l'entreprise. Oui. On a grandi dans l'entreprise. À l'époque, il y a moins de radio et moins de télévision, donc on travaille à l'école et ensuite, on va aider. Mm-hmm. Papa à la maison parle toujours du travail, maman travaille avec lui. Et Vincent avait rejoint l'entreprise avant moi, c'est mon aîné. Et puis, on a eu le malheur de perdre maman d'une longue maladie. Et puis, papa... a eu un accident de voiture en 1984 et s'est tué. Moi, j'étais à la fac et mon frère m'a proposé de le rejoindre pour continuer l'aventure, surtout au regard des collaborateurs de l'époque qui se posaient des questions sur leur avenir. Nous avions un grand écart d'âge avec papa. Voilà, on a pris la balle au bon. On peut dire que je suis un autodidacte. Et je me suis formé sur le tas. Et c'est le réseau, les rencontres qui ont fait qu'on a continué et on a basculé, nous, on va dire, de ce qu'on appelait l'agroalimentaire conventionnel à l'agriculture bio. Voilà, en créant les premiers sirops bio et équitables qui ont été distribués en France dans les magasins bio.
Alors, on peut le dire, ce pas vers le bio, vers le commerce équitable, c'est des choses qui sont très tendance et très importante aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas seulement la tendance. Qu'est-ce qui vous fait à un moment avoir conscience justement qu'il faut basculer vers le bio et respecter l'environnement? Enfin bon, tout le monde en est conscient aujourd'hui, mais je pense que quand même la prise de conscience a été prise assez tôt, puisque en 96, je crois, vous labellisez le bio.
Oui. Alors en fait, vous savez, dans l'entreprise, on cherchait d'abord à avoir des produits qui plaisent à nos consommateurs et qui fassent qu'on atteigne la pérennité. Et on était sur un marché où nos clients se faisaient souvent racheter. Et puis malgré qu'on fasse des produits qui étaient jugés comme bons, mais ça ne suffisait pas. Et on perdait les marchés. Et donc, on voulait donner du sens à notre engagement quotidien au travail. Et avec mon frère, mes sœurs, qui ne travaillaient pas avec nous à l'époque, mais qui étaient dans le capital depuis le décès de mon papa, on disait, bon voilà, on a un outil, on a un savoir-faire, mais qu'est-ce qui ferait qu'on prenne du plaisir et qu'on puisse se rémunérer par ce travail, voilà. Et la bio s'est imposée à nous au départ parce que c'était un marché de niche que personne n'avait exploré, et puis parce que quand on a commencé à faire les premières rencontres de nos clients, voilà, le réseau Biocoop, Pronadis ici en Gironde, on est tombé sur des gens où tout d'un coup c'était plus le client en face de nous. Mais c'était un homme avec des valeurs. Et puis, il nous parlait de nos produits. Il ne parlait pas uniquement d'un marché, d'un prix. Voilà. Et donc, on est rentré là-dedans. Et on a eu envie, effectivement, à chaque fois, d'essayer de se différencier, tout en se faisant plaisir, entre guillemets. Et on a eu la chance que la bio, en même temps, séduise des consommateurs. Et que, depuis, effectivement, 1996, ce marché progresse de 10 à 12% chaque année. Et donc, ça nous a fait connaître au-delà de nos frontières naturelles de la région. Et ça nous a permis d'innover et ensuite de faire autre chose que les sirops, puisque aujourd'hui, en 2022, la société fait la moitié de son chiffre d'affaires en dehors des sirops sur des boissons prêtes à boire.
Mmh. Voilà. Oui, donc vous êtes assez précurseur finalement.
Alors, on a eu la chance.
Je pense quand même qu'en 1996, le bio n'était pas commun.
Enfin, alors, on n'était pas nombreux, et quand on posait la question à nos partenaires de l'époque, ils nous disaient c'est pas une bonne idée, il n'y a pas de marché. Mais effectivement, on est passé de 100% conventionnel à aujourd'hui 94% en bio. Tout ce que l'on crée est bio. Tout ce qui est produisible localement est acheté localement. Et effectivement, on a rajouté des briques. La commerce équitable, qui effectivement n'est pas une demande du bio, qu'on a rajouté nous pour avoir plus de sens. L'énergie renouvelable.
Et de qualité aussi.
Alors de qualité, voilà. Si on a une maxime où on dit si nos produits sont bio, ils se doivent d'être bons. Parce qu'on vend avant tout un plaisir gustatif. Et donc, on ne fait pas de la bio certifiée uniquement. Voilà, on essaye de continuer à faire bien notre métier, à faire des produits qui soient bons. Et donc, c'est toujours le sens de notre engagement. Et il faut toujours qu'il y ait un lien avec la terre, qui ait du sens. Voilà, on ne crée pas des produits sur une base marketing. Voilà.
D'accord. La terre et l'humain. Quand on parle de commerce équitable, justement, est-ce qu'on peut redéfinir pour les gens qui nous écoutent, même si c'est un terme qu'on entend souvent et de plus en plus, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, un commerce équitable certifié, ça demande, un, la juste rémunération lorsque vous achetez une matière première, par exemple agricole. Ça veut dire que le prix va être défini par rapport à un cours. Voilà, et il faudra que le prix que vous donniez soit rémunérateur. Normalement, c'est à minima 10 à 20% plus cher qu'un prix normal. Ensuite, vous allez vous engager pendant 3 ans auprès du producteur avec des volumes. Vous allez ensuite abonder dans un fonds de développement qui va permettre que la filière continue. Moi, j'ai l'exemple localement de la filière de la pomme bio de Nouvelle-Aquitaine, où auprès d'une soixantaine de producteurs, on achète depuis quelques années une dizaine de variétés de pommes en bio que l'on presse et qui devient notre jus de pomme bio équitable qui est distribué dans les cafés, hôtels, restaurants ou dans les magasins spécialisés. Et donc on est engagé auprès de notre producteur Philippe Svilligoy, et nous finançons auprès de ces exploitations la possibilité de replanter des arbres nouveaux. Actuellement, on est en travail sur la poire. On n'a pas de peau, elle a été grêlée l'an dernier. Voilà, il n'y en aura pas cette année. Mais l'idée, voilà, c'est de s'inscrire dans le temps et dans la durée, et non pas dans l'économie de marché habituelle où vous allez acheter un prix spot.
Voilà. Oui, on n'étrangle pas finalement la personne avec laquelle on travaille, c'est ça, hein, au niveau des prix. On est dans le respect, on est dans l'engagement encore, dans une entente
deux côtés. De gré à gré. Et on est contrôlé ensuite. Voilà, il faut que ça satisfasse les deux côtés. La problématique étant d'arriver à faire comprendre à nos consommateurs c'est quoi un juste prix. Voilà, on voit bien aujourd'hui, depuis un an, avec la crise de l'inflation suite à la crise ukrainienne, que le consommateur a besoin d'explications. Si on lui explique que l'argent, il ne fait que passer de main en main, et il permet de continuer à avoir une production locale qui ne se délocalise pas, il répond favorablement et il comprend. Voilà. Après, c'est toujours la problématique. Qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un professionnel du numérique, je ne sais pas si un iPhone c'est très 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 cher, ou si c'est vraiment le juste prix. Voilà. Par contre, je peux parler de la
comme ça.
Je peux parler de la pomme, je peux parler de toutes les matières premières. Quand on met tout bout à bout et qu'on fait un calcul du prix de revient, voilà, c'était le sens d'ailleurs de la loi Egalim, qui essayait de mettre des bases sur une juste rémunération de la production. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, l'argent que génèrent ces ventes est remis à chaque fois dans la production. Et chaque année, on produit plus.
On parlait de commerce équitable, mais je reviens aussi à votre entreprise. Combien de personnes travaillent dans votre entreprise aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'entreprise, c'est entre 30 et 40 personnes, selon que vous ayez plus ou moins soif dans l'année. Il faut savoir après que ça s'est très largement automatisé par rapport à la période de mon papa. On a une entreprise qui aujourd'hui a pris en compte la pénibilité du travail, et c'est évident qu'on ne peut plus demander aujourd'hui à des gens de mettre des cartons toute la journée sur des palettes avec les volumes que l'on fait, même si on reste des artisans. C'est un robot qui palettise, par exemple. Voilà. À la cuverie, les pompes permettent de pomper les liquides par rapport à avant où on charriait des fûts. Voilà. Mais ça reste une entreprise à taille humaine, puisque l'on fait 20 fois moins par jour que notre leader national que tout le monde connaît.
D'accord. Et alors, on parlait tout à l'heure de bienveillance, de commerce équitable. Par rapport à vos employés, justement, c'est une famille?
Oui. On appelle ça la famille Menot, et on a des photos à l'entreprise pour montrer qu'on est effectivement tous ensemble, main dans la main, et qu'il est aussi important d'être un commercial que d'être un cariste ou que d'être un conducteur de ligne chez nous. Papa nous a inculqué cette notion de, de lien avec nos collaborateurs. Ça nous paraissait, je sais pas, moi j'appelais ça l'entreprise familiale, avec le besoin de prendre en compte les problèmes des uns et des autres. Voilà. Bon, aujourd'hui, ça s'appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. La nôtre est labellisée. Ça veut dire qu'on prend en compte non seulement la problématique au quotidien de nos collaborateurs, qu'on décide avec eux vers où on souhaite aller ensemble, mais aussi on s'occupe de notre place au sein de notre écosystème. Voilà, on est resté au niveau du site de production à Saint-Loubès, tout en déménageant depuis 3 ans sur la zone industrielle pour apporter plus de confort et pouvoir se permettre de voir plus loin dans l'avenir. Mais ça ne se fait pas au détriment de notre localité. Voilà, il faut qu'on intègre la société dans son environnement. Mmh.
Vous diriez que vos employés sont des employés heureux?
Bah, c'est à eux qu'il faut demander. Bon, voilà.
Oui. Mais enfin, il y a un lien, il y a un partage.
Je sais que quand on visite l'entreprise, souvent on me dit, écoutez, on est très bien accueillis, les gens sont gentils, on a la sensation qu'ils ne jouent pas un jeu et qu'ils sont vraiment heureux de venir travailler. Voilà. En tout cas, on essaye que chacun, dans son périmètre d'action, puisse être assez autonome. Voilà. Et moi, quand je passe, souvent, je suis content de voir que chacun s'est occupé un peu de son bureau comme il souhaitait. On a mis très tôt en place le temps choisi, le temps partagé. Bon, aujourd'hui, évidemment, le télétravail. On peut pas s'opposer, on peut pas se dire c'était mieux il y a 70 ans,
vous savez,
faut avancer. Mmh. Donc voilà, les nouvelles générations, elles sont différentes. C'est vrai que moi, quand j'arrive en salle de réunion et que je vois que en fait certains dans la réunion sont face à moi sur un écran depuis chez eux, je me dis bon, j'aurais pu peut-être moi aussi rester chez moi, mais bon, ma génération, on a l'habitude d'être plus présent au boulot. Bon, c'est comme ça, ça ne me choque pas.
Oui, c'est un autre rythme.
Oui.
Alors, vous me parliez, lorsqu'on préparait l'émission, de votre parcours, vous disiez que vous aviez un parcours patronal.
Oui, dans le sens que je trouvais effectivement qu'on avait une histoire collective que l'on partageait avec nos collaborateurs qui était intéressante, pour laquelle j'étais fier et je suis toujours très fier. Et puis, je trouvais qu'on disait du mal des patrons. Bon, alors, je ne veux pas qu'on s'apitoie sur le sort des patrons, surtout pas. Mais j'ai aimé partager la vie des chefs d'entreprise, qu'ils soient seuls maîtres à bord, ou que ce soit des chefs d'entreprise qui comportent 300, 500, 1000 employés, voilà, pour essayer de comprendre avec eux, d'abord, comment ils étaient arrivés, pour certains, là où ils en étaient. Quel était le moteur au quotidien, voilà. Et donc, nous, avec Vincent, on a été très rapidement remarqués par un de nos clients. Et puis, on est rentré au centre des jeunes dirigeants, voilà, qui nous a appris, on va dire, à avoir un œil attentif sur l'humain avant de passer du temps sur l'alias fiscal. Et qui nous a dit, allez, faites le pari de l'humain dans l'entreprise et vous verrez que votre entreprise sera pérenne. Voilà. Et le fait de partager nos craintes, nos peurs, nos envies avec nos pairs, PAIR, oui. Je pense que ça nous a d'abord apporté un réseau. Voilà. On connaît beaucoup de monde avec Vincent sur Bordeaux. Évidemment, après, on a essayé de défendre le patronat, en tout cas notre vision à nous, d'un patronat familial, proche de ses collaborateurs, à l'écoute, et faire évoluer pour cela nos syndicats à nous. Voilà. Et puis après, derrière, faire la promotion du monde de l'entreprise, parce que je n'ai jamais été salarié. Voilà. Donc j'écoute mes salariés pour essayer de comprendre leurs attentes. Et je leur dis parfois, mais je ne suis pas là pour qu'ils aient des réponses, mais je leur dis, vous savez, moi aussi j'ai une vie d'homme, j'ai une vie de papa, j'ai une vie d'homme marié, je peux arriver le matin parfois pas très en forme, et c'est pas pour ça que vous ayez l'impression que je vous en veux pour quelque chose ou quelque chose d'autre. Voilà. Donc on est des hommes avant tout, la problématique d'un chef d'entreprise, c'est souvent, on le dit, son isolement. Voilà. Et il faut qu'il trouve une oreille qui lui dise « Ok, moi je te comprends parce que j'ai vécu la même chose. » Voilà.
Oui, le partage, c'est nécessaire, pour peut-être aller de l'avant, être reboosté parfois, parce que chef d'entreprise, ok, il est à la tête d'une boîte plus ou moins importante,
oui.
Mais il a aussi des moments peut-être un peu difficiles. Juste le fait, alors je parle globalement, mais de certains chefs d'entreprise, pouvoir payer à la fin du mois, par exemple, tous les gens qui sont embauchés, enfin je veux dire... On n'a pas seulement ces soucis-là, mais le chef d'entreprise, il est responsable de toute l'entreprise,
oui.
Des gens.
Oui, puis on peut tout perdre. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, souvent notre intime conviction qui nous dit, bon, l'argent que j'ai gagné, je vais le jouer sur telle partie. Comme j'en ai pas assez, je vais demander à un partenaire bancaire de m'aider. Ce partenaire bancaire, je vais lui raconter une belle histoire où tout va bien. Il va mettre de l'argent et il ne me restera plus qu'à le rembourser. Sauf que pour le rembourser, il faudra que j'ai des clients, il faudra que j'ai des produits et il faudra que j'ai des collaborateurs qui m'aident à faire tout ça. Et donc, si ça ne marche pas, bon, eh ben, on attendra de ma part que je rembourse quand même l'argent. Voilà. Bon. Donc ça modifie parfois un petit peu le comportement. Et ça peut amener, voilà. Alors, y a des gens qui vous diront, ouais, mais bon, vous n'avez pas pris beaucoup de risques, hein, parce que la bio, ça marchait. Bon, oui, aujourd'hui.
C'était à Paris tout de même.
Oui, mais aujourd'hui, le syndicaliste que je suis a des coups de téléphone d'artisans en Nouvelle-Aquitaine qui ont perdu de l'argent l'an dernier parce que le marché de la bio s'est retourné et est en baisse. La consommation est en baisse, sauf depuis le mois de mars. Et ces gens-là, je leur dis, écoutez, il faut pas perdre espoir, il faut se réinventer, il faut apporter des réponses à nos consommateurs, mais effectivement, ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. Voilà. Et donc, souvent, quand on est chef d'entreprise, on n'imagine pas sa fin de vie professionnelle. On est toujours en mouvement.
Ouais, c'est une longue épopée.
Oui.
Alors justement, vous parliez d'innovation par rapport au sirop Meneau. Est-ce que vous avez de nouvelles idées? Vous avez envie de mettre d'autres choses en place?
Alors bien sûr, on a tout le temps des idées.
C'est ça.
Et les meilleures idées, c'est celles dont on ne parle pas, parce que sinon, si on en parle...
On nous les prend,
voilà. Mais voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de Darwin, de notre épopée avec nos associés quand on s'est lancé, nous, sur toute la partie alimentaire à leur côté. Tout le monde, là aussi, me disait en 2010-2011, non, produire une bière bio dans Bordeaux, qui est la capitale du vin, faire de la restauration bio, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Bon, on l'a fait, aujourd'hui... on est toujours debout et encore plus, on fait même du pain et du vin. Voilà. Donc, c'est possible, mais ça veut dire que ça, c'était pas fait en 1947. Et donc, c'est une innovation. Voilà. Sur les boissons, quand on a fait des smoothies, bah, c'est la première fois qu'on mélangeait des fruits, mais qu'on mettait pas de sucre. Voilà. C'était aussi une innovation. Ouais. Voilà. Donc, on a des idées en tête. On a des nouveaux produits. Parfois, on fait aussi des produits qui ne sont pas notre marque, mais que l'on fait pour d'autres qui n'ont pas l'usine, entre guillemets. Voilà. Donc, on fabrique pour eux. Et ça nous permet aussi de tester le marché et de voir si ça correspond à une attente des consommateurs. Mais moi, je dis souvent à nos enfants qui nous ont rejoints, bon, il y en a un, il a fait des alcools, le second, il a fait des sirops, les troisièmes, ils ont basculé en bio, ils ont fait des boissons rafraîchissantes. Maintenant, à vous d'inventer votre futur. Maintenant, on ne veut pas vous l'imposer. C'est à vous de choisir. Est-ce que vous avez envie de continuer là-dedans ou est-ce que vous avez envie de faire autre chose?
Et alors justement, ces enfants, qu'est-ce qu'ils disent?
Ben, ces enfants...
Ce sont des grands-enfants, là.
Oui, c'est des grands-enfants. C'est des grands-enfants, donc il faudrait leur poser la question à eux. Je pense qu'ils sont très fiers de voir, parce qu'on a la chance d'être aussi bien de l'autre côté de l'océan Atlantique que dans le nord de la France, que dans le sud ou à Bordeaux. Donc du coup, pour ceux qui connaissent, ils remarquent les bouteilles de la maison Menot, et donc c'est une fierté. Maintenant, là aussi, rien n'est acquis, et pour que ça continue, ben, il faut inventer le produit de demain. Voilà. Donc c'est sûr que si jamais vous avez envie de faire de la radio, ben, ça sera plus compliqué d'être à la fabrique au quotidien et d'avoir un coup un souci climatique. Parce que quand on achète des produits localement, et bien quand vous avez tout d'un coup des soucis climatiques et que vous avez fait le choix d'une agriculture qui n'est pas d'intrants chimiques, c'est compliqué. Voilà. Et moi, j'ai souvent des gens qui me disent « Moi, j'ai goûté vos produits, ils sont super, je vous les référence, j'en veux tant. » Et je leur dis « Ok, on met en place ça dans un an, dans deux ans, dans trois ans. » Mais pas de suite. Parce qu'en fait, je peux pas le faire tout de suite. Voilà. Quand on achète nos pommes, elles arrivent de fin août à novembre. Donc,
oui, si vous arrivez... les cycles.
Donc, si vous arrivez en février et que vous me dites « Je veux 300 000 litres », ben non. C'est pas possible. Il faudra attendre. Que, d'abord, il faudra attendre. Ensuite, un pommier, ça se plante et ça ne donne pas des pommes de suite. Voilà. Et dans notre société, on est habitué à l'instantanéité. Et donc, on a des gens qui parfois disent non, mais ouais, c'est votre problème. Mmh. Voilà. Non, ouais.
Et vous avez pensé éventuellement à planter vous-même des fruitiers ou des.
Alors c'est une réflexion qu'on a depuis quelque temps. C'est vrai que nous on est dans la transformation, on est aussi un peu dans la distribution au niveau café, hôtel, restaurant, mais beaucoup de manière infinitésimale par rapport au nombre de café, hôtel, restaurant qui nous font le plaisir d'être nos clients. Mm-hmm. C'est effectivement, je pense, dans l'avenir, ça sera une obligation, en tout cas d'aider les producteurs de l'amont. Si vous voulez avoir une ressource, voilà, clairement. Voilà. Donc il faudra aider. Alors aujourd'hui, on peut aider. On peut aider sous une forme de mécénat, sous une forme en étant acteur dans une coopérative. Voilà. Mais demain, effectivement, à mon avis, il faudra avoir des terres dans lesquelles on réinvestit pour être certain d'avoir les matières premières.
Mmh. Donc de véritables choix et engagements.
Oui, voilà.
Quand vous regardez un petit peu tout ce chemin parcouru, qu'est-ce que vous dites ?
Alors d'abord, je me rappelle que notre papa pensait qu'on ne serait pas capable et ne se projetait pas dans une succession. Donc là-dessus, je pense qu'au bout de 39 ans, on peut dire qu'on a duré. Ce qui me fait dire que nos enfants sont capables de continuer. Après, je me dis que ça passe très vite. Et j'ai l'impression que les outils numériques et la vie aujourd'hui fait que ça va encore plus vite, que les changements sont attendus. Vous vous rendez compte quand même qu'on a fait deux crises sanitaires qu'on appelle le Covid. Moi, s'il y a 5 ans, on m'avait dit « voilà ce qui va t'arriver », bon, dans les films de science-fiction, ok, mais dans la vraie vie, quand un jour on m'a dit « tu restes chez toi » et que le lendemain on m'a dit « ah mais non, comme tu es dans l'agroalimentaire, par contre, toi tu as droit à une dérogation, il va falloir que tu travailles ». Donc il a fallu qu'on... Bon, voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Les crises se succèdent, il faut être résilient, faut savoir s'adapter. Mais c'est vrai que je trouve que la vie passe très vite. Et vous savez, souvent dans nos projets, ce sont des projets en fait d'une décennie. C'est-à-dire que vous avez l'idée, vous investissez du temps, vous investissez de l'argent. Les deux, trois premières années, ça ne marche pas très bien, vous perdez de l'argent, mais vous en avez gagné ailleurs, vous le réinvestissez. Et puis au bout de 10 ans, vous savez si c'est un drame ou si vraiment ça marche, quoi. Voilà. C'est pas possible. Moi, j'ai des jeunes entrepreneurs qui me présentent leur business plan en me disant « voilà, c'est l'idée du siècle ». Je leur dis, malheureusement, des idées du siècle, il y en a pas mal qui en ont eu, mais la beauté, c'est qu'il y en a que très peu qui réussissent. Voilà, il faut que ça soit partagé. Donc, c'est très bien de faire des business plans, mais il faut sans arrêt les corriger d'année en année. Voilà.
Réviser. Et qu'est-ce que vous souhaitez alors pour la suite des événements?
Alors, comme on est dans l'agroalimentaire, on a l'habitude de se souhaiter une bonne santé.
Donc, c'est déjà énorme.
Ouais, voilà.
C'est essentiel.
Et puis nous, notre engagement dans la bio et dans les valeurs environnementales font qu'effectivement, autour de nous, les gens sont comme nous. Chaque journée, ils vieillissent un peu plus. Et force est de constater qu'il y a des gens qui n'ont pas l'impression d'avoir souhaité les maladies qui leur arrivent. Donc voilà, je souhaite que tous ceux que j'aime et que je croise au quotidien se portent bien et que je puisse les voir le plus longtemps possible en bonne forme.
Mmh. Ben écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On peut juste évoquer, vous parliez des chantiers de la Garonne aussi.
Oui.
On l'a pas passé sous silence, oui. On n'a pas eu le temps de l'évoquer.
Oui, oui.
Alors qu'est-ce qu'on peut... Je pense que les Bordelais, la majorité des Bordelais connaissent cet endroit.
Oui, on avait récupéré avec nos amis un ancien chantier naval. On avait proposé à l'équipe d'Alain Juppé et puis à Nicolas Florian à l'époque qui nous accepte l'idée de le transformer en brasserie de bière bio et en restaurant écaillé. Voilà, aujourd'hui, c'est 8 ans après, c'est une réalité. La bière, effectivement, on le voit sur les chiffres, se vend de plus en plus et on a de plus en plus de brasseurs à nos côtés qui se montent aussi. Écoutez, les chantiers, c'était l'idée qu'on n'avait plus le temps d'aller sur la côte et que donc ça serait sympa de voir le coucher du soleil le long du fleuve en buvant une bière bio
les pieds dans
produite
le sable.
Avec les pieds dans le sable. Oui, oui.
Pas oublier, ça c'est ça qui est bon.
Oui, ça c'était parce que Philippe, je lui avais dit, j'ai même plus le temps d'aller à la plage, il m'a dit, écoute, on va mettre du sable, comme ça la plage viendra à toi.
Mm-hmm. Pas mal.
Oui. Pas mal.
Les idées naissent parfois de choses étonnantes.
C'est able to adapt.
Bon, mais écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez une fille aussi à l'étranger, je crois, qui commercialise aussi vos sirops.
Oui, j'ai une fille qui est cliente de nos produits et qui les distribue dans les Antilles tous les jours à ses consommateurs.
Mm-hmm. Oui, donc les sirops Menot vont loin.
Oui,
sont connus loin.
Oui, j'avais fait la remarque un jour, d'ailleurs, en parlant du locavorisme, que c'était dommage de se faire plus facilement référencer dans les Antilles, à Singapour, à Nice ou à Paris, et de pas être présent sur Bordeaux. Bon, c'était un petit peu l'idée aussi de se montrer, de montrer nos produits dans les bords de Garonne. Mmh.
Bon, mais écoutez Philippe, la salle Saint-Jean, l'interview arrive à son terme.
Merci.
Merci d'être venu aussi nous partager votre expérience et puis votre savoir-faire et d'avoir séduit les auditeurs. J'imagine que vous aussi, vous avez apprécié cette émission. Je vous souhaite tout le bonheur du monde.
Oui. Oui.
Et puis, longue vie aux sirops Menot et puis à vos descendants ou à vos enfants.
C'est gentil. Merci de votre accueil.
Merci, je vous en prie. Au revoir.